Bonjour, bonsoir les amis, selon de quelle partie du monde vous nous écoutez. Une fois de plus, confiné à mon domicile comme mesure préventive pour isoler le virus de la Covid-19, qui vous parle depuis Buenos Aires, Eric Domergue, je renoue le contact avec vous dans ce nouveau programme de RAE, l'Argentine vers le monde en 8 langues, avec la production de Sylvana Avellaneda, Julien Cortés, responsable du site web, sous la direction de Adrien Corol. Jour à jour, nos auditeurs peuvent trouver le rapport officiel sur la santé présenté par le gouvernement argentin sur notre site web www.rae.com.ar. Y figurent également les horaires de transmission par onde courte, alors que en streaming, quotidiennement, vous avez accès à la programmation commune de Radio Nationale Argentine sur la plupart des signaux AM, FM et RAE. Et ne manquez pas d'envoyer vos rapports de réception à qslrae@gmail.com. Par ailleurs, je vous invite à visiter la chaîne YouTube de RAE, l'Argentine vers le monde, où vous trouverez une partie des productions et des contenus réalisés par toute l'équipe qui constitue le signal international des médias publics en Argentine, notamment des productions en français sur le Maté et sur le quartier de San Telmo. Maintenant, place à l'actualité. Les 6 bases permanentes argentines en Antarctique ont veillé à ce que le Covid-19 n'atteigne pas ce continent. L'Antarctique est le seul territoire du pays qui n'a enregistré aucun cas de coronavirus. Les mesures de désinfection, la réduction des vols de fret et la restriction des contacts avec le personnel des bases d'autres pays sont quelques-unes des mesures du protocole visant à prévenir l'arrivée du coronavirus en Antarctique, établi début février pour les scientifiques et le personnel militaire qui soutiennent les opérations des bases permanentes de l'Argentine sur le continent blanc. La base de Marambio a été fondée en 1969 dans le nord de la péninsule antarctique, à plus de 1200 km de la ville d'Ushuaia en terre de feu. Elle est desservie par 56 personnes qui sont arrivées le 2 novembre dernier avec pour mission de maintenir le principal aérodrome argentin de ce continent opérationnel toute l'année. Elle opère sur une île située à 200 mètres au-dessus du niveau de la mer avec des températures allant de 20 à 35 degrés sous zéro en hiver. La base de Belgrano 2 a été construite en 1979 sur un affleurement rocheux d'un glacier à environ 1300 km du pôle sud et à 2900 km d'Ushuaia. C'est la plus méridionale des bases antarctiques argentines, enregistrant des températures allant jusqu'à 48 degrés sous zéro. Elle est exploitée par un équipage de 22 personnes qui sont arrivées sur le site le 26 janvier après 22 jours de navigation sur le brise-glace Almirante Irizar. La base de San Martín a été construite en 1951 à environ 1500 km de la ville d'Ushuaia sur l'îlot de San Martín, dans une zone où, en hiver, la mer gèle et relie l'île à la baie de Margarita. Un équipage de 20 personnes est arrivé sur ce site le 19 février dernier. Finalement, la base d'Esperanza a été inaugurée en 1953 à plus de 1100 km d'Ushuaia. Esperanza est la seule base argentine où le personnel accomplit son activité accompagné de sa famille. Et il y a l'école provinciale numéro 38, Raúl Ricardo Alfonsín, qui est la seule en Antarctique. Elle possède également la seule radio à ondes courtes du continent, LRA36, Arcángel San Gabriel. Mario Benedetti, l'un des grands poètes uruguayens et latino-américains, mort le 17 mai 2009, aurait eu 100 ans le 14 septembre dernier. Né en 1920, Benedetti était aussi dramaturge et journaliste. Sa production littéraire prolifique comprend plus de 80 livres, dont certains ont été traduits dans plus de 20 langues. Pour lui rendre hommage, nous sommes en train d'écouter son poème « Te quiero »,« Je t'aime », musicalisé par Alberto Favero. Si.
Mucho más que dos.
terminer, voici la seconde partie d'une interview à l'écrivaine argentine Laura Alcova, invitée de l'écrivain Youssef Zirem à BRTV dans son émission Graffiti en 2013.
Laura Alcova, donc, tu publies donc, des romans depuis quelques années. Le bleu des abeilles est donc ton
quatrième,
exactement. Et donc le premier, c'était en 2007, toujours aux éditions Gallimard. Il s'appelait Manège, petite histoire argentine.
Oui.
C'était quoi ce roman?
Alors, c'est un livre qui est très directement lié au Bleu des abeilles, puisque d'une certaine manière, le Bleu des abeilles prolonge ce premier roman, même si ce sont deux livres indépendants. Manège, c'est l'histoire d'une petite fille qui est plus jeune que dans le Bleu des abeilles.
D'accord.
Puisque, donc, c'est chronologiquement avant, et là, 7 ans et demi au début du livre, 8 ans à la fin, 8 ans et demi. Et elle vit dans la clandestinité avec sa mère, dans une maison où il y avait une imprimerie clandestine. Donc, au tout début du livre, justement, 75, le père est emprisonné et la petite fille se cache dans cette maison avec sa mère, où il y a d'autres militants, des opposants donc, qui militent dans un groupe.
C'était des militants de gauche, on peut dire,
oui,
comme ça,
oui,
les
oui,
choses,
oui,
peut-être
oui,
même
oui.
communistes,
oui,
je ne
oui,
sais
enfin,
pas.
Oui, d'extrême gauche, oui. Mais la question politique, je l'aborde sans l'aborder vraiment, c'est-à-dire qu'elle est omniprésente. Moi, ce qui m'intéressait dans Manège, c'était d'évoquer l'expérience d'une enfant dans des moments de violence politique. Et paradoxalement, donc c'est... La situation politique en Argentine était très dure, mais très compliquée aussi. Et elle reste encore pour les historiens, surtout en 75-76, parce que le livre commence un peu avant le coup d'État. La violence politique était déjà là. C'était une période assez trouble. Je ne suis pas tellement entrée dans les... Je ne suis pas du tout entrée dans les détails autour de cela. Et je me suis centrée sur les sensations de l'enfant et ce qu'elle perçoit,
oui.
ce à quoi elle est soumise. Et à la fin du livre, j'évoque ce qui a malheureusement eu lieu réellement, à savoir que toutes les personnes qui se trouvaient dans cette maison où il y avait une imprimerie clandestine ont été assassinées après le départ de la petite fille, la narratrice,
petite fille
et de sa mère.
Et de sa maman.
Donc là, elle, disons que ce dénouement tragique et réel était très, très présent pour moi. Et j'avais... Je n'aime pas beaucoup l'expression « devoir de mémoire », mais il y avait cette idée que... Il me semblait qu'il fallait que je raconte cette histoire, que je raconte cette expérience, parce que toutes les personnes qui avaient vécu avec nous à ce moment-là n'étaient plus là pour le faire. Et donc, dans ce premier livre, j'ai parlé de la manière dont, voilà, de cette imprimerie qui se trouvait derrière des cages de lapins, puisqu'il y avait un élevage de lapins.
D'accord.
Qui était censé servir de couverture à l'activité clandestine de la maison. Voilà, et donc il y a une série de scènes comme ça qui correspondent toutes à des souvenirs précis, comme d'une certaine manière comme dans Le Bleu des abeilles, sans être dans une démarche autobiographique de me
Alcoba,
raconter.
Est-ce que, Laura, tu parles un petit peu des disparitions dans Manège, petite histoire argentine?
Bien sûr.
Tu évoques un petit peu dans Le Bleu des abeilles.
Bien
hein.
sûr, bien
on
sûr.
Sent que ton papa n'est pas un prisonnier ordinaire, et puis quand même on évoque un peu les disparitions. Il y a eu beaucoup de disparitions
oui.
forcées en Argentine.
Tout à fait. J'ai grandi dans... C'est très, très étrange. Les gens disparaissaient. Et pour un enfant, ça faisait partie de ma réalité, curieusement, mais de la réalité de beaucoup de personnes de ma génération en Argentine aujourd'hui. Quand le livre a été publié en Argentine, j'ai reçu beaucoup de lettres, de mails, de lecteurs.
De gens qui se retrouvaient dans ce que tu racontais
leur enfance.
Réellement, oui,
parce
bien sûr.
Que Il y a eu des récits faits par des personnes qui étaient adultes à ce moment-là, qui
Oui,
étaient dans
peut-être
une
même
démarche
des récits
différente.
d'hommes politiques ou de
Oui.
femmes politiques, n'est-ce pas?
Mais là, c'est pour un enfant, se dire, tiens, je n'ai pas vu le voisin aujourd'hui, on l'a peut-être effacé. C'est-à-dire, c'est quelque chose de très, très particulier et qui, pour moi, était réel. On pouvait disparaître. C'était pas la même chose que mourir. C'est tout d'un coup être gommé, comme quelqu'un qui... Voilà.
C'est peut-être ça le plus grand mal de ces disparitions forcées, parce que l'homme ou la femme, ou peut-être même l'adolescent ou l'adolescente n'est plus là. On a un petit espoir de le retrouver, mais on peut se dire aussi qu'on ne le retrouvera jamais.
Oui, pendant longtemps. Alors maintenant, on sait que les disparus ont été assassinés.
Bien sûr.
Mais pendant des années, il y a eu toutes sortes d'hypothèses autour de ces disparitions. On
Et il
disait
y a
que
eu
les
un
disparus...
extraordinaire mouvement de femmes
Tout à
autour
fait.
de ces disparitions, un mouvement qui est devenu reconnu à l'échelle
Oui,
mondiale.
les maires de la place de Mai, qui ont... de manière très courageuse, dénoncer et manifester autour pour dénoncer ces disparitions déjà sous la dictature, hein,
Tout à
n'ont pas
fait.
attendu le
Ce qui n'était
retour à la
pas
démocratie.
facile, hein, à
Ah
ce
non,
moment-là, bien sûr.
bien entendu.
Elles pouvaient elles-mêmes disparaître à leur tour, bien sûr.
Elles
Ou
pouvaient
peut-être même
elles-mêmes
que
dis
certaines ont disparu
oui,
à leur tour.
tout à fait. Et elles manifestaient en silence. Alors c'est très, très important le silence dans tous ces livres, hein, parce que la dictature impose le silence. Et elle manifestait en silence, mais elle manifestait tout de même avec un foulard blanc sur la tête, hein, tourné en rond sur la place de Mai.
La
C'est pour
place
ça
de
qu'on les
Mai,
a
donc à
appelées
Buenos Aires, c'est ça?
les folles de Mai.
Les folles de Mai, on les a
Et
appelées
elles ont
ainsi, oui.
revendiqué
Ce terme,
las
oui.
locas de Mayo. Elles ont revendiqué cette appellation, oui, les folles de Mai, elles manifestaient quand même. Elles dénonçaient quelque chose en silence, parce qu'elles ne pouvaient pas le faire autrement au début, mais elles le dénonçaient quand même.
Et dans le livre qui vient après, alors, donc c'est Jardin blanc, c'est toujours aux éditions
Oui.
Gallimard, c'est en 2009.
Oui.
C'est une histoire aussi argentine ou pas?
C'est une histoire argentine, mais c'est un livre très différent, je dirais,
C'est vrai?
dans mes
Qu'est-ce qu'il
quatre
raconte
romans.
alors?
Alors, pour écrire ce livre, je suis partie d'une anecdote authentique. Il y a beaucoup de personnes qui ont pensé que je l'avais imaginée, inventée, mais non, c'est que le général Perón,
Oui.
argentin, a vécu pendant un an à Madrid, dans l'exil, dans le même immeuble qu'Ava Gardner,
Ah d'accord.
la
L'actrice,
grande,
la fameuse actrice
fameuse
américaine,
et
bien sûr.
superbe, sublime Ava
Tout à
Gardner.
fait, bien sûr.
Donc, je suis partie de cette anecdote pour écrire à la fois un livre où il y a de l'histoire avec un grand H, je
Oui.
dirais, parce que je m'étais beaucoup documentée, et en même temps, il y a un personnage de fiction qui s'est glissé. Donc, c'est un livre à trois voix. On passe d'un étage à l'autre dans un immeuble de Madrid, immeuble qui existe, que je suis allée voir. Mais donc, il y a à la fois
Et les trois voix,
cette
c'est
histoire
qui?
réelle. Alors, donc les trois voix qui prennent la parole à tour de rôle, c'est bien sûr celle d'Ava Gardner,
Oui.
qui à l'époque était dans un moment, dans une forme d'exil, je dirais, à Madrid, parce qu'elle, comme beaucoup de femmes, surtout ces actrices américaines des années 50-60, là ça se passe en 1960, je dirais que sa beauté était à la fois une force et un fardeau.
Tout
Hein,
à
donc
fait, tout à fait.
c'est un sujet qui me touche, qui m'intéresse beaucoup. Et il se trouve qu'elle a écrit des mémoires. Je crois qu'on l'a un peu aidée pour écrire des mémoires, mais
Oui,
c'est elle qui
elle a
s'exprime
écrit
dans ses
un très beau
mémoires.
livre de
Un
mémoire,
très beau livre.
effectivement. Oui.
Très beau livre, où elle parle de cela de manière très, très émouvante, très touchante. Et donc l'autre voix... est attachée, je dirais, à l'appartement du général Perón, mais ce n'est pas celle du général Perón, c'est celle d'un fantôme,
Un fantôme,
d'Eva Perón,
Eva Perón, donc.
Qui était morte et
qui revient dans le monde.
Et d'une certaine manière, sa mort obsédait à l'époque les Argentins. Pourquoi? Parce que on a fait disparaître son corps, et là on parle encore de disparition.
On a fait disparaître son corps après sa mort, c'est ça?
Tout à fait. Son corps avait été embaumé, il y a eu un coup d'État, elle était extrêmement populaire, et on craignait qu'autour de son corps, il y ait des rassemblements et des mouvements de contestation qui prennent son, je dirais, qui je sais pas, qui trouve son origine là. Donc on a fait disparaître son corps, et cette absence obsédait les Argentins, qui voulaient savoir où elle était, qui s'interrogeaient sur cette disparition. Il y a eu encore toute une série de récits, de légendes autour de ce corps dont on ignorait le destin à l'époque. Il se trouve qu'elle était enterrée sous un faux nom en Italie, à Milan. Enfin, c'est une histoire totalement rocambolesque qui est vraie.
Plus tard, c'est
oui,
ça
plus
la
tard.
Vérité historique,
tout à
c'est
fait.
Celle-ci,
oui, oui.
D'accord.
Dans les années 70. On va le découvrir plus tard. Et là, c'est le moment où Eva Perón est dans tous les esprits, mais personne ne sait où elle est. Voilà, donc c'est pour ça que c'est son fantôme qui prend la parole. Et l'autre voix, la troisième voix, sont trois femmes. Donc la troisième voix, c'est celle d'un personnage de fiction, Carmina. Une jeune femme qui a un secret, bon, je ne vais pas tout
oui,
qu'on dévoile,
sûr.
Qu'on découvre
sûr.
À la fin du livre.
Oui.
Et ce sont trois destins qui se font écho. D'une certaine
ils manière. Se font écho, ils oui. s'entrecroisent d'une certaine façon, bien sûr.
Oui.
Ils racontent en même temps un seul pays, l'Argentine, n'est-ce pas?
Oui, mais aussi...
Même si ça se passe en Espagne, comme
ça se passe en Espagne, l'Argentine est très présente. Mais aussi le cinéma est très présent par Ava Gardner.
Bien sûr, Ava Gardner. Et la sublimissime Ava Gardner, effectivement.
Et donc, il y a différents fils. Je disais, les trois histoires se font écho. Elles se font écho différemment. Elles se font écho autour du corps féminin, je crois, en grande partie. Hein. La difficulté peut-être pour une femme, en tout cas pour Ava Gardner, de ne pas être seulement une image, de ne pas exister seulement dans le regard des autres. Ce sont trois femmes qui ont quelque chose à dépasser, avec qui doivent prendre possession pleinement de leur corps, je dirais. Voilà ce livre qui
trois
qui
femmes
est donc...
qui cherchent à s'affirmer peut-être,
oui,
réellement.
Tout à fait. Oui. Oui, oui.
Voilà, à être respectée pour ce qu'elle sent d'abord,
oui.
Les êtres humains, c'est ça?
Oui, oui, oui.
D'accord.
On peut le dire comme ça.
D'accord. Et l'autre roman, alors, qui est paru toujours aux éditions Gallimard, oui. En 2012, je crois, « Les passagers de l'Anna C ».
Oui.
C'est quoi ce texte, alors?
Alors, c'est un roman aussi, même s'il est très, très directement inspiré et qu'il essaye de reconstruire un voyage authentique. Qui est celui qu'ont fait mes parents avec d'autres personnes,
hein, oui.
À Cuba, alors qu'ils étaient très très jeunes, dans l'idée de rejoindre le Che Guevara. Donc c'est l'histoire de cette jeunesse idéaliste de la fin des années 60,
romantique.
Oui.
Ce fut l'époque, n'est-ce pas?
Voilà, donc j'ai retrouvé des survivants. J'emploie le mot survivant à dessein parce qu'il se trouve que la plupart des personnes qui ont participé à ces aventures révolutionnaires dans les années 60-70, en Argentine, ont trouvé la mort. Hein. Donc là, dans les années 70, au début des années 70, au milieu des années 70, encore, 76, jusqu'en 77. Donc la plupart des personnes qui ont pris part à ce grand périple sont mortes de manière violente par la suite, mais j'ai réussi à retrouver, donc en dehors de mes parents, deux autres personnes qui ont fait ce voyage fou, parce qu'ils ont quitté l'Argentine,
oui.
Pour se rendre en Europe. Hein. On dirait, a priori, ce n'est pas le chemin le plus court pour aller à La Havane, mais ça l'était.
Géographiquement, pas du tout.
Ça l'était politiquement, parce
d'accord.
qu'à l'époque, bien sûr, il y avait le rideau de fer, donc il valait mieux passer par Prague plutôt que par le Mexique pour aller à La Havane. Donc, ils sont passés par l'Europe. Ils sont partis en septembre 66. Ils sont arrivés en Europe, de là, ils ont franchi, bien sûr, traversé le rideau de fer, Et ils sont allés donc à Cuba en passant par le Canada, donc grand périple. Et là, confrontation avec à la fois l'expérience révolutionnaire et la réalité aussi de Cuba à ce moment-là. Donc c'est une histoire de, je dirais, de jeunesse, d'idéalisme, aussi un roman d'apprentissage, de
Est-ce que
jeunesse.
tes parents, dans le roman, vont rencontrer le Chi? Donc Che
Ah,
Guevara, qui lui aussi est argentin.
peut-être.
Ce n'est pas sûr.
C'est-à-dire qu'ils lui courent après toujours. Ils doivent le rejoindre. Mon père, effectivement, était dans un groupe qui devait rejoindre le Che Guevara en Bolivie. D'ailleurs, il y a une série de groupes dont le Che Guevara parle dans son journal de Bolivie. Il était
Oui,
dans
bien
un de
sûr.
ceux-là.
Oui.
Et d'autres personnes, donc, parce que je me suis servi de plusieurs témoignages. Mais le Che Guevara est assassiné, comme on le sait. Cette phase, je dirais, n'a pas lieu, alors qu'elle est sur le point de se réaliser. Maintenant, le personnage qui correspond à mon père, et donc dans la mémoire de mon père, il y a peut-être une rencontre avec le Che Guevara. Il n'en est pas certain, parce que c'était le moment où le Che Guevara s'était lui-même grimé et changé physiquement pour quitter Cuba
Cuba.
et faire aussi le chemin inverse
Tout à
et
fait.
se rendre en Bolivie où il a essayé d'ouvrir ce front. Moi, ce qui m'intéressait beaucoup là, par exemple, autour de cette anecdote, le personnage de Manuel disant « Je crois avoir vu le Che Guevara, mais je n'en suis pas sûre », il me semblait que ce doute faisait autant partie de l'histoire que ce qui était certain et avéré, parce que dans ce doute, il y a peut-être aussi le rêve, il y a peut-être aussi le fantasme, mais peut-être qu'il l'a croisé effectivement sous un autre nom, sous une apparence qui n'était pas exactement celle à laquelle on est habitué. C'est aussi un livre où il est beaucoup question de clandestinité, de faux noms, de changement d'identité, de changement d'apparence. Ce doute et cette rencontre avec quelqu'un qu'il pense être le Che Guevara, mais qui ne ressemble pas au Che Guevara, ça dit beaucoup aussi de cette expérience et
Et
de ce périple.
ces passagers, alors, vont-ils revenir en Argentine?
Oui.
Ils vont revenir en
À bord
Argentine avec...
d'un bateau, la nacée,
Ah,
d'où le
c'est le...
titre.
Donc, d'où le titre. Et ils reviennent avec une certaine désillusion ou pas?
Oui, je crois. Je crois. Est-elle dite, est-elle nommée, formulée, est-ce qu'on la formule, je pense qu'on la pressent. En tout cas, ils reviennent changer. Ils reviennent changer. Et en ayant peut-être conscience déjà que c'est une aventure dans laquelle on peut perdre la vie, et c'est ce qui va attendre beaucoup d'entre eux. Hein. À la fin du livre, il y a quelques pages auxquelles je tiens beaucoup, qui est
Oui.
ce sont des pages que j'ai appelées stèles, dans lesquelles j'ai répertorié ou fait la
Oui.
liste des personnes que j'évoque dans le livre et qui ont
Qui ne
trouvé la
sont pas
mort
revenus.
par la suite.
Oui.
C'est très troublant parce que c'est encore une histoire de fantômes. Hein. La plupart des personnes qui ont pris part à cette aventure ont trouvé la mort dans les années qui ont suivi, alors qu'ils avaient une vingtaine d'années. Hein, je veux
Tout à
dire.
fait, tout à fait. Mais qu'est-ce qui, au départ, avait poussé tous ces gens-là, hein, à ce romantisme révolutionnaire, à ce désir de changer le monde? Il y a eu des choses qui se sont passées en Amérique latine pour qu'il y ait ce mouvement, parce que j'imagine qu'il n'était pas seulement en Argentine.
Oui, non, bien sûr, c'était un mouvement mondial, générationnel, hein, puisque une de mes sources aussi,
Oui.
ça a été Régis Debray,
Oui, bien
qui
sûr.
lui a
Bien
suivi
sûr.
ce même itinéraire et s'est retrouvé en Bolivie avec le Che Guevara et a failli perdre la vie aussi dans cette histoire. Donc il y avait des Français aussi, il y avait des gens qui venaient d'ailleurs. Peut-être la dernière grande utopie, je dirais, le dernier moment où il y a eu une sorte comme ça, d'aventure et d'utopie collective. Et ça me fascinait. Je voulais l'évoquer, même si c'est quelque chose qui m'est, voilà, que je comprends sans comprendre. Je voulais, voilà, qui me parle de ce moment-là. Et essayer de le de le retracer dans ce livre.
C'est bien que tu aies essayé. Il semble que cette période a été aussi foisonnante au niveau des arts, hein, de la musique, du cinéma,
oui.
de l'écrit aussi. Hein. Tu as dit tout à l'heure, c'est la dernière utopie. C'est fini, les hommes ne peuvent plus, les hommes et les femmes bien sûr, ne peuvent plus rêver collectivement.
Je ne sais pas, mais là on est un peu...
On est un peu coincé,
n'est-ce pas? On est un peu en mal d'utopie, non? Je ne sais pas. Ce qui était surprenant quand j'ai entrepris d'écrire Les Passagers de la Nacelle, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient participé à cette aventure, je dirais. C'est un peu bizarre de dire aventure quand on,
bah oui.
on y perd la vie. Mais il y avait en tout cas un souffle. Cette idée-là de participer,
hein,
de prendre le train dans le bon sens, de contribuer comme on pouvait, parce que c'était là qu'il fallait être, une sorte de grande certitude comme ça, mais qu'il y avait très peu de récits, très peu de romans. D'ailleurs, il y a très peu de romans où apparaît le Che Guevara comme personnage. Je me suis beaucoup interrogée là-dessus, j'ai essayé d'interroger les personnes que j'ai pu croiser là-dessus. Pourquoi ? Pourquoi on avait si peu parlé en réalité? Alors il y a des livres d'histoire, mais
oui,
c'est pas la même approche. C'est pas la même approche. Pourquoi ça avait donné lieu à si peu de romans, de récits non directement historiques, hein, mais il y a différentes explications à mon sens. D'une part, que cette génération avait et a peut-être encore très fortement le culte de, je dirais le culte de la clandestinité, mais c'est plus que ça. Pour participer à la révolution, il fallait se faire oublier.
Oui.
Aujourd'hui, on
essaye
de se mettre en avant.
Voir,
mais là, il fallait se faire oublier. Plus on participait, moins on était repérable. Donc, il y a cette idée-là. Et puis, il y a aussi, je crois, et là, on revient à... Alors, est-ce qu'il y a des illusions, pas des illusions? C'est difficile de dire, voilà, on y a tant cru et maintenant nous n'y croyons plus. Donc il y a une difficulté, je crois, à évoquer ces années, ces aventures, cet engagement. Et donc j'ai voulu recueillir ces témoignages et en même temps en faire un livre qui n'est pas un livre directement politique, moi je ne le conçois pas comme ça, mais un livre sur, sur les idéaux, sur l'idéal de jeunesse, sur ce grand désir qu'a représenté ce mouvement-là, et sans être dans la nostalgie du tout, parce que c'est le désir qui a été celui de la génération de mes parents et pas le mien, mais dire quelque chose de ce moment-là, laisser une trace, parce que ce sont aussi des histoires terribles, passionnantes, qui était en train de se perdre sans laisser de traces, parce qu'il y a eu ce culte de la clandestinité, du secret, du silence, qui fait que ces histoires-là,
ces histoires ont certainement permis aussi l'avènement d'une autre période, hein,
puisqu'aujourd'hui oui.
l'Argentine n'est plus une dictature.
Tout à fait.
Depuis déjà longtemps, hein, n'est-ce
oui.
pas?
Oui, oui.
Et comment en Argentine aujourd'hui, on perçoit cette période dictatoriale?
Il y a eu un travail très très fort, très important autour des droits de l'homme, un travail qui s'est fait, la justice a fait un travail remarquable.
Tout à fait, la justice argentine a poursuivi les généraux,
oui.
certains ont même été jugés récemment.
Oui, 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 alors récemment, c'est vrai, c'est compliqué, parce qu'il y a eu un moment
oui.
où il y a eu d'abord des procès, et puis il y a eu une amnistie. Qui était venu
Mais on
trop
est revenu
tôt.
Sur l'amnistie, justement.
Voilà, qui était venu trop tôt parce que c'était encore choisir le silence. Hein. Il faut
voilà.
La réconciliation et la paix ne peut advenir que lorsqu'on a vraiment jugé et fait le travail de vérité qui est nécessaire. D'ailleurs, il y a eu des procès très intéressants qui s'appellent Juicio por la Verdad. Où il ne s'agissait pas... Ce sont des procès pour la vérité, pour savoir ce qui s'est passé. Il ne s'agissait pas vraiment de juger quelqu'un, mais
voilà,
de dire...
Voilà, il fallait lire cette page de l'histoire.
C'est Voilà, parce que le silence, la peur, l'autocensure, la peur de dire a été tellement forte durant ces années que c'était nécessaire qu'il y ait cette espèce de parole comme ça, publique et collective, et
tout à fait.
devant le pays, de tout un pays, hein, je crois. Et voilà, c'est quelque chose qui s'est fait dernièrement et je dois dire qui est très, très important, hein, un moment très, très fort. Qui n'est pas venu tout de suite. Je pense que sans doute ce n'était pas possible. Hein,
Ce n'était pas possible
après,
matériellement, bien
oui,
sûr.
et je pense qu'il est nécessaire qu'il y ait un temps. Après les grands traumatismes de l'histoire, la parole ne peut pas se libérer immédiatement, facilement. Il y a un temps où encore tout le monde est en état de choc et puis on peut raconter, dire des années plus tard, peut-être une génération plus tard, hein, je crois. C'est le cas pour moi et je pense à beaucoup d'écrivains argentins qui le font
Oui, il y a
aujourd'hui.
des écrivains argentins qui ont été à la hauteur, à l'instar du grand Ernesto Sabato.
Bien sûr, bien entendu, et d'autres écrivains aujourd'hui jeunes qui font partie. Je pense notamment à un écrivain, Félix Broussonne, qui est fils de disparu et qui lui, voilà, il y a parfois besoin d'une génération. Hein, pour pouvoir aborder certains sujets, parce que la douleur a été trop, trop forte et
Tout à fait.
sur le moment, immédiatement après la dictature. Et la justice fait son travail, a fait son travail dernièrement et le fait encore. Bon, il a fallu tout ce temps, il a fallu
Il a
30 ans.
fallu tout ce temps et notre temps à nous arrive à sa fin.
Oui.
Peut-être qu'on a oublié quelque chose, Laura Alcoba, ou peut-être un dernier mot, je ne sais pas.
Merci de m'avoir invité.
Eh bien, je t'en prie, je te dis bonne continuation dans tes écritures et à bientôt.
Merci.